RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis, avec Melchior Gormand.
La culture pour tous est-elle vraiment possible? Et surtout, est-elle possible dans tous les territoires? Quand on sait qu'un tiers des Français vit à la campagne et que Paris et l'Île-de-France concentrent énormément d'institutions culturelles et de subventions, on peut se poser la question parce que la culture, c'est un catalyseur essentiel, on va l'entendre, pour revitaliser et dynamiser les territoires. Pourtant, malgré son importance, la culture en milieu rural est souvent reléguée au second plan dans les politiques publiques et des initiatives de développement à cause des ressources limitées, premier point, et de l'attention portée aux centres urbains qui ont conduit à une marginalisation progressive de la culture dans ces régions rurales. Mais que fait l'État? En janvier, Rachida Dati, ministre de la Culture, a lancé le Printemps de la Ruralité, une vaste concertation nationale sur la vie culturelle. Chaque Français, qu'il soit habitant, élu ou acteur de la culture, peut s'emparer de cette concertation et apporter sa contribution. Alors à quoi ça va servir? On va en parler. Et je vous propose ce matin dans Je pense donc j'agis de nous pencher sur l'importance de la culture dans les territoires ruraux. Comment mieux répondre aux besoins des 22 millions de Français qui vivent à la campagne et comment repenser le rôle que l'État peut vraiment jouer sur le terrain avec l'aide des collectivités locales. Vous avez le programme, on peut démarrer. Soyez les bienvenus en direct avec vos témoignages. Vous habitez en zone rurale, avez-vous l'impression d'avoir accès à toute la culture? Qu'est-ce qu'il vous manque? Est-ce que vous sentez une volonté de la part de votre municipalité et collectivité d'améliorer cet accès? Et si vous connaissez des dispositifs plutôt inspirants, proches de chez vous, venez nous les présenter. On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Et dans la seconde partie de l'émission, on quittera la campagne et on fera le focus sur les centres-villes qui manquent parfois de dynamisme, notamment dans les commerces. Pourquoi et comment les redynamiser, ces centres-villes? On en parlera à 10h. Et pour discuter avec nous dans cette première partie, trois invités. Dans un instant, nous rejoindra Emmanuel Wallon. Il est professeur de sociologie politique et membre du conseil d'administration de l'OPC. C'est l'Observatoire des politiques culturelles. Bonjour Jean-Michel Taubelem.
Bonjour.
Merci à vous d'avoir accepté de participer à cette émission et merci à RCF Touraine qui vous accueille en studio. Vous êtes spécialiste des politiques culturelles, vous êtes professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur d'Option Culture. C'est un organisme d'études et de conseils. Vous êtes aussi à l'origine d'un guide coécrit avec Jean-Michel Poutz intitulé Culture et développement rural, guide à l'intention des porteurs de projets et des élus. C'est un guide, hein, Jean-Michel Taubelem, qui est aussi à l'initiative du réseau rural national. Comment vous l'avez construit, ce guide?
L'idée, c'était de dire que malgré des difficultés, il y a aussi beaucoup d'atouts dans les territoires ruraux. Territoires ruraux ne veut pas dire d'ailleurs peuplés essentiellement d'agriculteurs. Hein. Ce sont souvent principalement des urbains ou des personnes qui ont des pratiques urbaines, qui se rendent fréquemment en ville pour leurs courses, pour le travail, pour l'école des enfants. Et ce qui nous a frappé, c'est que on a repéré donc dans l'ensemble du territoire national de nombreuses initiatives et on s'est aperçu que ça rentrait pas forcément dans les cadres existants, notamment des politiques publiques de la culture inspirées notamment également par le ministère de la Culture qui attendent un certain nombre de réponses à des normes qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on constate dans les territoires ruraux, c'est-à-dire non pas une moindre exigence, oui. Hein, souvent des projets de très très grande qualité, mais qui présentent la particularité d'être hybrides, transversaux, de mêler la culture, le social, l'éducatif, de s'inscrire dans des projets de développement local, avec une recherche aussi d'attractivité touristique. Alors tout ça fait que c'est parfois un peu compliqué et ce dont on s'est aperçu, c'est que souvent il faut pas grand chose en fait. On en parlera plus tard.
J'imagine, la volonté,
de la volonté et puis un accompagnement, sachant que du coup c'est pas non plus extrêmement coûteux. Donc il y a vraiment tous les ingrédients réunis pour mieux accompagner ces projets.
Et on va bien sûr prendre le temps d'en parler dans cette émission. Jean-Michel Taubelem, je vous présente Claire Delfosse qui nous a rejoint. Bonjour Claire.
Bonjour.
Merci à l'équipe de RCF Pays de l'Ain à Bourg-en-Bresse qui vous accueille en studio. Vous êtes géographe, professeur des universités à Lumière Lyon 2. Vous êtes aussi spécialiste des questions de culture en monde rural. Claire Delfos, je commence avec vous. Est-ce qu'on peut dire que la ruralité est un désert culturel? J'utilise cette expression qui fait écho à désert médical, hein, ces zones où la population rencontre des difficultés pour accéder à des soins de santé. Au niveau de la culture, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il existe des territoires, on va dire, sans culture?
Alors, moi, j'aime pas beaucoup l'expression « désert culturel », dans la mesure où, effectivement, dans les territoires ruraux, il y a beaucoup moins d'équipements qu'en ville. Donc, si on regarde par équipement culturel, oui, on peut dire ça d'une certaine façon, mais ça ne veut pas dire, comme l'a dit Emmanuel Vallon, qu'il n'y a pas de culture en milieu rural. Voilà. Et qu'on est dans un désert culturel. En fait, on a une multiplicité d'actions et on a des acteurs culturels qui vivent, comme par exemple des artistes.
Oui.
Il y a aussi, il ne faut pas oublier, en milieu rural, des formes aussi un peu... enfin, le rôle très important des associations, que ce soit les associations d'éducation populaire ou d'autres types d'associations. On est dans d'autres lieux, d'autres formes, comme par exemple des tiers-lieux, voilà. Donc en fait, des aires culturelles, si on est sur, évidemment, on regarde les théâtres labellisés, les grands opéras, les grands musées, peut-être, et encore, hein, voilà. Mais on a un maillage aussi de bibliothèques, de médiathèques qui peuvent avoir d'autres rôles et des lieux, comme l'expliquait Emmanuel Vallon, où il y a de l'hybridation. Moi, je dirais aussi des lieux multifonctionnels. On a de la programmation dans des bars, dans des bistrots, dans d'anciennes granges, voilà. Et aujourd'hui, on a aussi des formes un peu nouvelles de lieux multifonctions, comme les tiers-lieux, qui ont très souvent une fonction aussi culturelle.
Alors, vous parliez des structures culturelles labellisées qui sont pourtant peu implantées dans les zones rurales, mais qui restent relativement actives. C'est ça qui est assez paradoxal, Jean-Michel Taubelem.
Alors... Il faut tenir compte du fait que, enfin, il faut planter le décor et dire qu'on a des questions de densité qui se posent. Hein. Donc, il est difficile d'observer, en effet, dans certains territoires, la présence de structures professionnalisées ou de professionnels en tant que tels de la culture. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas, comme on l'a souligné à l'instant. On a parlé du rôle des bibliothèques, qui est absolument essentiel. Et pour vous donner un exemple des collaborations possibles entre monde amateur et monde professionnel, pour animer ces points lecture, où on, de toute façon, quelle que soit la volonté, on n'aurait pas la possibilité, malheureusement, de salarier des professionnels bibliothécaires, eh bien, les bibliothèques départementales, portées par les conseils départementaux par définition, forment les bénévoles. Autre exemple de structure qu'on peut maintenir ou développer dans le domaine des enseignements artistiques, l'intercommunalité culturelle, l'intercommunalité portée par les établissements publics de coopération intercommunale permet par exemple de développer une politique ambitieuse d'accès aux écoles de musique, de théâtre ou de danse. Donc ça, c'est un des avantages que peut procurer l'idée de mutualiser finalement des moyens à l'échelle d'un territoire élargi, sachant que chacun des villages, par définition, ne pourrait pas financer une structure de cette nature. Et puis, dernier point également, pour être sur des aspects un peu positifs, on a évoqué différents types de structures culturelles. N'oublions pas la question pour montrer que c'est très ouvert, la question des patrimoines. Et là, nous soyons assurés, bien entendu, que dans la plupart, enfin quasiment tous les villages de France, il y a des éléments de patrimoine de diverses natures, que ce soit architectural, historique, archéologique ou plus vernaculaire, du petit patrimoine, comme on dit également.
Et ça fait partie de la culture local. Aussi.
Ça fait partie absolument de la culture parce que ce sont des vecteurs à la fois de citoyenneté, d'éducation, de cohésion sociale et puis évidemment en dehors des valeurs propres que portent ces éléments de patrimoine, c'est-à-dire au sens de valeurs culturelles, au sens de valeurs artistique, etc. Donc tout ça pour dire qu'on a de nombreux points d'appui, oui. Sans oublier aussi, comme ça a été évoqué précédemment, les aspects un peu plus convivialité, de festifs, les festivals, les fêtes locales, toutes les traditions qui peuvent aussi être des vecteurs, si on le souhaite, hein, d'une vecteur d'une politique artistique et culturelle.
J'utilisais l'expression catalyseur en parlant de la culture en milieu rural. Est-ce que c'est une expression qui vous convient? Est-ce qu'on peut parler de ça pour dire à quel point finalement, la culture a une certaine puissance aussi dans les territoires.
Oui, il y a un aspect à la fois symbolique, et puis ça peut être aussi un liant entre les individus. Alors, il faut le dire sans illusion excessive, oui. Parce qu'il y a des formes de culture qui ne sont pas forcément aisément partagées par tous, mais en effet, il peut y avoir des lieux de rassemblement, de convivialité, de partage, de cohésion portée par la culture, en effet.
Claire Delfos.
Oui.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui. La culture, c'est un vecteur très important de cohésion, de lien social et de développement local dans les territoires ruraux. En fait, ce que l'on voit, c'est que la culture en milieu rural est fortement associée au développement local, notamment dans ses modes de financement. C'est-à-dire que si on n'a pas beaucoup de lignes dédiées ou de financement directement dédiées à la culture en milieu rural, la culture en milieu rural est souvent financée par des politiques de développement local. Je pense notamment aux programmes LEADER, qui sont des programmes européens, des financements européens, qui ont beaucoup appuyé les programmes des actions culturelles en milieu rural, culture, patrimoine. Et puis, il ne faut pas oublier que le patrimoine rural, notamment dans les années 1980-1990, a été souvent des points d'appui du développement local avec des structures qui aujourd'hui sont plus en difficulté, mais qui ont été des acteurs comme les écomusées. Mais il faut penser aussi aux parcs naturels régionaux qui ont joué patrimoine, culture. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que on parlait de patrimoine. Dans le patrimoine plus, je dirais, immatériel, moi j'aime pas beaucoup le terme petit patrimoine, mais en tout cas immatériel, des oui. savoir-faire, etc., sont aujourd'hui réinvestis dans le cadre des transitions écologiques, sociétales, y compris par des artistes qui aiment bien aller créer, vivre parfois, ou en tout cas diffuser aussi en milieu rural et qui travaille ce lien entre nature et culture.
Je rappelle que vous avez toutes et tous la parole au 04 72 38 20 23 ce matin pour nous dire si vous habitez en zone rurale, si vous avez l'impression d'avoir accès à toute la culture ou pas d'ailleurs, et qu'est-ce qu'il vous manque vraiment, qu'est-ce que vous constatez sur le terrain, est-ce que vous sentez une volonté peut-être de la part de votre municipalité d'améliorer cet accès, et si vous connaissez des dispositifs, des initiatives plutôt inspirantes proches de chez vous, venez aussi nous les présenter au 04 72 38 20 23 ou par mail à l'adresse direct@rcf.fr. Bonjour Emmanuel Wallon.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Bienvenue dans Je pense donc j'agis. Vous êtes professeur de sociologie politique et membre du conseil d'administration de l'OPC. Alors l'OPC, c'est l'Observatoire des politiques culturelles. C'est un organisme national, hein, Emmanuel Wallon, que vous allez nous présenter, qui a vraiment pour but d'étudier, on va dire, les politiques culturelles sur tous les territoires.
Il s'agit de comprendre, d'étudier, mais aussi d'accompagner la décentralisation culturelle sous toutes ses formes, donc aussi bien dans les grandes villes, les régions, les départements, que sur les territoires ruraux. Et deux terrains d'études intéressants pour nous. D'abord, la manière dont s'opère la décision culturelle dans ces communes. Souvent, on remarque que le rôle du maire est peut-être encore plus déterminant dans les petites et moyennes communes, parce qu'il y a moins de délégations et surtout de personnel qualifié dans oui. les services culturels. Et puis, l'apparition, bien sûr, des présidents et vice-présidents de communautés de communes, le regroupement communal, Ça produit des entités qui sont assez larges, quelquefois très étendues sur des dizaines et des dizaines de communes. Et pour trouver un ciment en commun, la culture fait partie des thèmes récurrents. Hein, il suffit pas de s'intéresser au transport ou au ramassage d'ordures, il faut aussi donner le sens de la vie en commun. Et c'est pour ça qu'on voit aussi fleurir des initiatives, des résidences artistes, des festivals, des initiatives en matière d'éducation artistique aussi dans les écoles de ces communes, soutenues par ces élus et les fonctionnaires qui travaillent dans ces communautés de communes.
Si on fait un état des lieux de la culture dans les territoires ruraux, alors évidemment ça prendrait beaucoup de temps, mais qui ressent ce manque de culture? Est-ce que ce sont les habitants de la campagne? Alors attention, il va y avoir beaucoup de clichés de ma part, mais qui habitent là depuis des générations, qui ressentent ce manque? Ou les néo-ruraux, ceux qui habitaient en ville avant et qui ont déménagé à la campagne, Jean-Michel Taubelem?
Oh ben je crois que vous avez raison, il faut être nuancé, mais
Oui.
il y a probablement les deux parce que on a assisté dans les dernières décennies à une élévation du niveau d'éducation, à l'accès à l'enseignement, parfois à l'enseignement supérieur. Mais une fois établi ce fait, on peut quand même souligner que les néo-ruraux, les gens qui s'installent en périphérie des villes, conservent leurs habitudes. D'urbains, si je puis dire, même s'ils habitent à la campagne, et ils formulent des besoins. En effet, ils formulent des demandes. Par exemple, je citais tout à l'heure la lecture publique, les enseignements artistiques et les différentes formes de spectacles. Une des difficultés qu'on peut éprouver, c'est celle de la mobilité, des transports, de l'accessibilité. Donc, il y a en effet des demandes. Parce que c'est ressenti aujourd'hui par un grand nombre de nos concitoyens comme quelque chose d'important dans la vie dans la vie de chacun d'entre nous. Donc il faut quand même rappeler que nous vivons dans un pays qui est quand même relativement privilégié à cet égard, c'est-à-dire que quand on regarde on parlait tout à l'heure du maillage
Oui.
culturel,
Il
y
se
a
passe des
assez peu
choses.
de
Oui.
d'endroits dans notre pays où on n'a pas accès à quelque chose, si je puis dire, pardonnez-moi l'expression, qui a accès à la culture. Mais pour autant, on peut aussi imaginer d'autres formes, hein, certaines d'ailleurs très traditionnelles, comme par exemple l'itinérance. Hein, si on regarde par exemple le théâtre historiquement s'est fondé aussi sur l'itinérance des troupes. Donc ça peut être une des solutions. De la même façon, si on ne peut pas installer un cinéma de façon pérenne, on peut développer, et ça se fait bien évidemment, des formes d'itinérance pour l'art cinématographique. Voilà, donc on a plusieurs solutions qui sont à notre disposition pour répondre à cet appétit dont on parlait tout à l'heure, à la fois des néo-ruraux et puis des habitants plus traditionnels de ces territoires.
Donc je récapitule un peu ce qu'on s'est dit depuis le début de cette émission. Il y a un patrimoine culturel, ça c'est une certitude dans les territoires ruraux. Et puis Claire Delfosse, comme vous l'avez dit, il y a aussi cette création artistique qui se développe énormément, qui est présente d'ailleurs depuis longtemps. Comment on peut l'expliquer, cette création artistique? Est-ce que c'est ce qui permet une relation avec un public un peu plus simple?
Oui, donc alors, la création artistique en milieu rural, elle peut être aussi très ancienne. On a parlé de l'itinérance avec les théâtres. Hein. On peut revenir aussi aux grands théâtres type TNP qui ont pu aller jouer dans les communes. Mais moi, je dirais, en matière de création, ce qui peut attirer, bah oui, c'est d'autres relations, même pour la diffusion, d'autres relations au public, parce que en général, si on prend par exemple les spectacles, on est dans des salles de petite jauge ou des salles qui ne sont pas des grandes salles qui peuvent faire venir aussi un public qui finalement n'irait pas dans un grand établissement culturel ou labellisé comme culturel. Donc en fait, la question de l'accès à la culture est aussi fortement et très social. Hein. Et en milieu rural, de fait, il y a cet avantage de petites jauges, de pratiques ou de diffusion de spectacles, ou de spectacles, par exemple, qu'on va avoir dans des lieux qui sont pas, qui peuvent être une grange, dans un paysage particulier, dans des bars, etc., qui, pour les artistes, donnent un lien différent au public. Et puis aussi une capacité. Alors, on a dit aussi que justement, le milieu rural, quand on interroge des artistes, oui, leur permet aussi d'être peut-être plus innovants et ne pas rester dans leur discipline, travailler sur d'autres disciplines. Et puis, l'art en milieu rural a permis de revaloriser des disciplines artistiques qui finalement étaient un peu boudées, comme la marionnette, le conte, par exemple.
Jean-Michel Taubelem, je me retourne vers vous à propos du guide que vous avez coécrit avec Jean-Michel Poutz, Culture et développement rural, guide à l'intention des porteurs de projets. On constate que il y a ce lien qui est souvent fait entre culture et développement, vraiment développement du milieu rural. Est-ce que c'est un lien qui est évident d'ailleurs ?
Non, c'est un lien qui est le moins d'être évident, et donc il faut le construire, ce lien. Nombre d'initiatives peuvent exister, par exemple, de façon totalement autonome, portées par l'initiative bénévole, citoyenne, venant au plus près du terrain, donc ce qui est très bien en termes de vitalité, bien entendu. Pour autant, si on veut s'en servir pour aller dans le sens de ce que vous dites, d'un développement plus assuré, plus structuré, alors, ça c'est très important, c'est ce que nous essayons de montrer dans ce guide avec Jean-Luc Poutz, c'est le lien, l'articulation nécessaire avec les politiques publiques. Et quand je dis politique publique, ce ne sont pas uniquement les politiques publiques de la culture.
Oui.
C'est la politique publique, les différents axes, pardon, de la politique publique, qu'il s'agisse du social, de l'éducatif, de l'économique, de la formation, de l'innovation, du tourisme. Enfin voilà, tout cet ensemble de choses. Alors il ne s'agit pas d'instrumentaliser la culture au profit d'autres politiques. Il s'agit de lui donner son sens, de lui donner sa résonance. Alors c'est valable d'ailleurs, y compris en milieu urbain, hein, ce que je dis là, mais ça a davantage de sens dans les zones rurales, puisque comme vous l'avez souligné, on a des moyens qui sont plus limités en termes humains, en termes financiers, donc il est crucial de travailler sur les synergies, les partenariats, les coopérations, les mises en commun de ressources. Et à ce titre-là, je dirais que ce qui nous a frappé également avec Jean-Luc Poutz, c'est la capacité pour accompagner ces projets à les inscrire dans le projet de territoire. Hein, donc vous avez bien compris, quand je dis projet de territoire, c'est le projet de la collectivité et ça n'est pas le projet culturel en tant que tel. C'est-à-dire, c'est de montrer comment le projet culturel vient s'inscrire en résonance avec différents axes de la politique publique. Et c'est par la reconnaissance du rôle que la culture peut jouer à l'égard de ces différents actes de la politique publique, que les autorités publiques, y compris au niveau des EPCI, vont pouvoir accompagner ces initiatives. Alors juste pour vous donner un exemple, cette nécessité d'accompagnement, tout à l'heure, Claire Delfosse parlait des programmes leaders, des programmes européens. Chacun comprend que ces programmes européens, ils représentent une certaine technicité. C'est-à-dire, ce n'est pas évident pour un porteur de projet de capitaliser sur ces ou de monter des dossiers convaincants au niveau de l'Union européenne.
Pourquoi c'est pas évident?
La nécessité parce que ça demande une technicité, ah oui. Ça demande des efforts en matière d'évaluation, en matière de suivi de projet, donc ils sont assez complexes. D'où l'idée de se dire que on peut-être aider ces projets à émerger en aidant les porteurs de projets dans un des mots qu'on utilise parfois aujourd'hui, le mot d'ingénierie. Voilà, de l'ingénierie, c'est-à-dire une certaine technicité, une certaine expertise de domaine, une certaine compétence dans le développement de ces projets. Et c'est là que les autorités publiques, que ce soit les structures territoriales ou ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les parcs naturels régionaux, peuvent accompagner très utilement les porteurs de projets.
Emmanuel Wallon, je ne vous oublie pas, hein, vous êtes à distance. Alors parfois, on a tendance à ne pas vous donner la parole. Pourtant, vous êtes bien avec nous. Et je rappelle que vous êtes professeur de sociologie politique et membre du conseil d'administration de l'OPC, l'Observatoire des politiques culturelles. Qu'est-ce que vous observez justement dans cette OPC ? Est-ce que vous constatez un peu, comme on a entendu avec Claire Delfosse et Jean-Michel Tobelem, quand même une vraie volonté de la part des porteurs de projets d'aller beaucoup plus loin dans le développement de la culture en milieu rural, mais finalement avec des freins rencontrés dans la mise en place des projets?
D'abord, j'approuve ce qui a été dit, ça rejoint nos observations de terrain. Sur ces fonctions support qu'évoquait Jean-Michel Tobelem en parlant d'ingénierie, il est important qu'elles se développent auprès des départements qui ont une relation privilégiée avec les communes et également des régions qui ont souvent mis en place, à l'exemple de l'Occitanie, un système de projet culturel de territoire. Et la Direction régionale des affaires culturelles, côté ministère de la Culture, est évidemment utile, quoique un petit peu plus lointaine.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, parce qu'on doit marquer une pause. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. À tout de suite.
Je pense, donc j'agis, avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame.
Et on parle de la culture en milieu rural ce matin dans Je pense, donc j'agis, avec nos trois invités. Claire Delfosse, je rappelle que vous êtes géographe, professeur des universités à Lumière Lyon 2 et spécialiste des questions de culture en monde rural. Jean-Michel Tobelem, vous êtes spécialiste des politiques culturelles et professeur associé à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et directeur d'Option Culture. Et puis Emmanuel Wallon, je vous ai coupé la parole, je vais vous la redonner, ne vous inquiétez pas. Vous êtes professeur de sociologie politique et membre du conseil d'administration de l'Observatoire des politiques culturelles. Alors justement, Emmanuel Wallon, il y a quelques instants, vous confirmiez avec vos observations de terrain.
Le maître mot pour l'action culturelle en milieu rural, c'est coopération. Évidemment, entre plusieurs secteurs, parce que vous l'avez souligné, il y a des enjeux de développement local, de tourisme culturel, des enjeux éducatifs qui sont liés à la création et la diffusion dans ces zones rurales, mais aussi coopération entre les différents niveaux d'administration publique. Bon, on dit souvent que les politiques culturelles sont marquées par les financements conjoints ou croisés entre ces différents niveaux, de l'État jusqu'à la commune en passant par le département, la région, les communautés d'agglomération, etc. Mais là, c'est encore plus vrai parce que il y a aussi un désir de rencontres entre des savoir-faire qui s'ignorent et des populations qui vivent en milieu rural mais qui n'ont pas toutes le même lien au terroir entre les nouveaux venus et les anciens, entre les exploitants agricoles et ceux qui travaillent dans les services publics, entre les retraités et les actifs. Donc cette coopération, elle peut être soutenue, comme on le disait à l'instant, par des collectivités plus grandes comme les départements ou les régions, mais également relayées par des opérateurs tels que les scènes conventionnées d'intérêt national, tels que un certain nombre de centres de création labellisés par le ministère. Par exemple, on évoquait le théâtre itinérant tout à l'heure avec Claire Delfosse. N'oublions pas les Tréteaux de France qui ont remisé désormais depuis quelques années avec Robin Renucci et avec le nouveau directeur leur camion et leurs grands chapiteaux pour monter des projets en partenariat avec des communes de taille moyenne qui elles-mêmes essaiment sur le monde rural. La Comédie de Valence est connue pour ses tournées également autour, quelquefois jusqu'à 80 km de son siège, et beaucoup d'autres scènes nationales ou centres chorégraphiques, par exemple, peuvent également monter dans des salles moins équipées, ce qu'on appelle des petites formes. Et tout ça est une occasion de rencontre et de mise en relation également intergénérationnelle, parce que c'est peut-être en raison de l'éloignement des lycéens qui doivent partir du domicile et aller chercher leurs études un petit peu plus loin, que on ressent plus fortement, aussi à cause du vieillissement de la population liée à l'agriculture, on ressent plus fortement ce manque de dialogue intergénérationnel qui existe aussi dans les zones urbaines. Et les festivals comme les expositions dans les chapelles ou les concerts donnés dans des lieux patrimoniaux peuvent être l'occasion, surtout pendant la période estivale, de renouer ces liens.
Il y a aussi les concerts de poche, mais on pourra en citer tout à l'heure quelques-uns. Question importante que je vais évoquer dans un instant, parce qu'on a une auditrice qui nous a rejoint tout de suite, c'est Anne-Paul qui habite en Loire-Atlantique. Est-ce que Anne-Paul est avec nous ? Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci
bonjour
beaucoup.
Bonjour à toutes.
On vous écoute.
Alors, mais moi je voulais témoigner qu'on habite une toute petite ville de Loire-Atlantique qui s'appelle Montmichon. On est à peu près 1000 habitants.
Oui.
On a des associations qui sont extrêmement dynamiques. Dans notre petit bourg, je pense à la Momission, c'est une association de jeunes qui fait un festival qui a une belle importance peut-être dans notre région et peut-être même au niveau national. Et on a une association aussi qui s'occupe de sauver notre étang et notre église, parce que le bâtiment est en mauvais état. À côté de ça, au niveau culturel, nous, personnellement, on a été touchés parce qu'on a une fille qui a voulu faire de la danse à un haut niveau. Et là, du coup, au niveau ruralité, on a, dans le monde rural, on n'a aucune porte, quoi. Notre fille, on a été obligés de l'emmener au conservatoire de Nantes jusqu'à ce qu'elle puisse rentrer dans un horaire aménagé de danse. Et là, à partir de ce moment-là, tout se complique, ça devient horrible. Notre fille, elle est partie, elle avait 11 ans, elle était en 5e. Elle est partie au conservatoire à Paris. C'était vraiment une grosse, grosse bagarre pour nous, des ruraux, de trouver comment faire, quels sont les bons chemins pour accéder à ce genre de culture, quels sont les bons chemins. Et après, c'est énorme comme travail pour les parents et pour l'enfant. Parce qu'il faut se séparer de sa famille pour pouvoir avoir accès à un conservatoire.
Oui.
Et notre fille, elle avait 11 ans, elle était en 5e, et elle est partie sur Boulogne-Billancourt, au conservatoire de Boulogne-Billancourt. Et il a fallu trouver une famille d'accueil, une famille qui puisse l'accueillir, où elle se retrouve pas toute seule, etc. Donc, c'est vrai, là, j'ai trouvé que c'était vraiment très dur.
Eh ben écoutez,
à cette culture, à ce niveau-là, quoi.
Eh ben c'était vraiment très intéressant, Anne-Paul, et merci beaucoup pour votre témoignage au 04 72 38 20 23. Claire Delfos, c'est symptomatique de justement ce manque d'accès à la culture, ce que nous a dit Anne-Paul, c'est-à-dire que quand parfois on a besoin d'un conservatoire, alors même si les conservatoires à rayonnement intercommunaux se développent, il y a quand même quelques avancées, mais c'est Paris ou les grandes villes ?
Ça, de toute façon, oui, ça joue aussi pour les habitants des villes moyennes et autres. Et on, même, par exemple, un habitant peut-être de Bordeaux va envoyer son enfant très jeune à l'Opéra de Paris. Donc ça, c'est le système de la professionnalisation et des grands établissements d'enseignement des pratiques. Après, malgré tout, je souhaitais rebondir sur quelque chose, c'est-à-dire que même dans la pratique de la musique ou de la danse ou aller au cinéma ou autre, même si on a des cinémas itinérants, même si on a du théâtre itinérant, les formes d'itinérance, elles sont anciennes, importantes, elles se développent de plus en plus, on a quand même encore une question de mobilité.
Oui.
En milieu rural, puisqu'on est dans de la faible densité relative. Et si certaines classes sociales peuvent bouger, comme on le disait tout à l'heure. Même si on vient de la ville et on va en milieu rural, on continue à avoir ces pratiques culturelles. Ou si on a toujours vécu en milieu rural, mais on est dans des classes sociales où on a des pratiques culturelles, on va aller chercher ce que l'on cherche, quoi. Voilà. Oui. En revanche, pour les personnes qui sont en situation plus pauvreté, précarité, bouger, se déplacer représente un coût. Et je pense que l'enjeu d'accès à la culture, que ce soit à la diffusion ou aux pratiques amateurs, eh bien, se situe là dans les personnes qui ont des difficultés pour se déplacer. Mmh. Et dans la formation aussi des enfants, c'est un rôle important. Et c'est là où on a une différence peut-être en ville, parce qu'on n'a pas de transport collectif, parce que c'est plus difficile, et que du coup c'est la voiture individuelle et donc le coût du déplacement.
Jean-Michel Tobelem, ce que j'entends à travers le témoignage d'Anne-Paul à l'instant au 04 72 38 20 23, c'est bien sûr cette volonté d'accéder à la culture, peut-être aussi de travailler dans la culture, ou en tout cas d'étudier, mais que dans certains territoires, il y a des freins qui empêchent cet accès, qui empêchent de pouvoir faire comme si on habitait dans une grande ville, tout simplement. Ça, c'est vraiment ce que vous avez pu observer.
Oui, mais sans vouloir relativiser l'importance de ce témoignage qui est vraiment éclairant, mais oui. On est vraiment sur des parcours d'excellence,
de chacun,
je veux dire, qui par définition concernent peu d'individus. Donc ce qu'il faut, c'est que la transmission se fasse bien, effectivement, entre les conservatoires locaux,
absolument,
départementaux, régionaux et nationaux. Mais je pense que si on parle de la plus grande communauté de citoyens, il faut montrer que, en fait, ce qu'il faut, c'est valoriser ce qui existe au niveau local. Peut-être prononcer un mot qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est la question de la culture scientifique et technique. Bon, moi, je fais partie de ceux qui considèrent que ça fait partie de la culture en tant que telle. Or, dans les milieux non urbains, on trouve de différents types de structures. Les espaces naturels sensibles, par exemple, qui dépendent des conseils départementaux, les centres permanents d'initiation à l'environnement. On a une multitude aussi de musées locaux, de musées qui sont parfois animés par des bénévoles. On a des réserves naturelles. Et puis, on a tout ce qui concerne le patrimoine scientifique, technique et industriel. Donc, autant de formes qu'on peut valoriser. Alors, si je prends le patrimoine industriel, on voit très bien qu'on peut le valoriser par rapport à l'histoire de ce patrimoine, ce qui représente pour les habitants. C'est très important de transmettre cette mémoire, mais comme il a été évoqué également précédemment, oui, ça peut être le support d'actions artistiques, d'actions culturelles, de création y compris, hein. Donc il faut montrer, enfin je pense qu'il faut prendre appui sur ce qui existe et bâtir des politiques fortes à partir de ces éléments. Et comme le soulignait Emmanuel Vallon, en effet, l'enjeu, ça va être de réunir, de faire coopérer, de faire se rencontrer différents acteurs, parce qu'on aura détecté. On aura détecté un élément qu'on doit faire grandir dans les territoires, et il y en a partout.
Alors justement, très bonne transition, parce que je voulais qu'on évoque avec vous, Emmanuel Wallon, cette vaste concertation nationale qui a été lancée début janvier par le ministère de la Culture, notamment par Rachida Dati, le printemps de la ruralité. Chaque Français, habitant, élu ou acteur de la culture, pouvait s'emparer de cette concertation qui est terminée, je tiens à le préciser, et apporter sa contribution. Je crois qu'il y a eu à peu près plus de 30 000 contributions venant de toute la France. Ça, c'est un bon signe, d'après vous, Emmanuel Wallon. Est-ce qu'on se rapproche de ce que nous disait le ministre d'État André Malraux, ministre chargé des Affaires culturelles, qui souhaitait cette fameuse culture pour tous?
Alors, ce printemps de la ruralité a été un feu d'artifice d'idées, de projets, d'expériences, et c'est une très bonne chose. Après, il faut qu'on ne reste pas dans l'artifice ni dans la communication politique, et qu'on passe aux travaux pratiques. Et c'est là tout l'enjeu. Comme les témoignages et mes collègues aussi l'ont rappelé, on a besoin d'un maillage territorial, pour que les pas de côté, pour que les progrès puissent se faire en bonne compagnie. Et commençons par dire que ce qui est représenté dans toutes les communes, le premier point d'accès à la culture, c'est d'abord l'école. Oui. Et je crois que si le gouvernement veut un peu s'inscrire dans cette belle continuité de l'action publique, il faut qu'il mette vraiment la gomme, si j'ose dire, en matière d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire d'intervention artistique avec non seulement d'apport de savoir et de réflexion, mais aussi et peut-être surtout de pratique de l'ensemble des disciplines dans les écoles, avec le soutien de ces communautés de communes que j'évoquais. Le deuxième point d'accès, c'est la médiathèque. Elle est quelquefois très réduite, mais c'est quand même un lieu d'entrée, là aussi, y compris dans les savoirs scientifiques et techniques qu'évoquait Jean-Michel à l'instant, avec nécessité peut-être de former encore plus les bibliothécaires à cette mise en relation. Plutôt que d'apporter de Paris, comme on l'a fait un peu dans les microfolies, des sortes de kits de diffusion culturelle tout intégrés, le mieux, je crois, c'est de renforcer ce potentiel local avec de la mise en réseau, parce que oui, les ressources numériques le permettent. Et puis, le témoignage que nous avons entendu nous rappelle l'importance des conservatoires. Alors, c'est souvent au niveau effectivement des CCRI, conservatoires à rayonnement intercommunal, que l'on peut ouvrir vraiment l'offre. Pour le moment, il faut bien le dire, ils sont saturés. C'est-à-dire que si on habite une commune limitrophe de celle de la commune centre, tout va bien. Mais si on est un tout petit peu plus éloigné, on ne pourra pas inscrire les enfants à un cours de musique, voire même à une chorale. Donc c'est important là aussi qu'il y ait un effort collectif. Et puis, la tentation, si vous voulez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, et j'ai cru comprendre que c'était le cas de notre nation tout entière et du ministre de l'économie et des finances, eh bien, la tentation, c'est de lancer des appels à projets pour récompenser quelques entreprises audacieuses et surtout les dossiers les mieux ficelés. Et tout le monde n'est pas capable de les faire. Et puis surtout, les appels à projets, ça n'a qu'un temps. Donc je crois qu'il faut des financements pérennes, même s'ils s'ils sont mesurés, mais qu'ils soient pérennes et qu'ils soient inscrits dans ce circuit de coopération avec des apports financiers conjoints de la part de l'État, des régions et si possible des départements et des communes pour que petit à petit on monte en puissance. Mais oui, N'oublions pas la priorité à l'éducation artistique et culturelle dans les écoles elles-mêmes, les collèges et les lycées.
Ce printemps-là, oui, Claire Delfosse.
Oui, je voulais ajouter que on discute là aussi des politiques côté ministère de la Culture, mais il y a aussi la prise en compte de la culture dans la politique autour du rural. Donc le volet culturel a été important dans toutes les réflexions sur France Ruralité, avec justement la question et dans les débats qu'on a pu avoir d'une ingénierie culturelle de territoire, de projets culturels de territoire à l'échelle des intercommunalités ou voire variant un peu. En fait, moi j'insisterai plus en tant que vraiment ruraliste sur la nécessité d'avoir de l'ingénierie culturelle en milieu rural, qu'elle vienne de la région, des départements, mais aussi une vraie prise de conscience à l'échelle des intercommunalités d'avoir de l'ingénierie vraiment culturelle et des possibilités qui peuvent s'offrir par des financements côté plutôt développement rural. Et puis, pour aller aussi dans le sens tout de suite des manuels, en fait, des exemples comme celui de la politique qui a pu être conduite en région Auvergne-Rhône-Alpes, Rhône-Alpes au départ, sur les CTEAC, c'était les contrats territoriaux d'éducation aux arts et à la culture, qui étaient portés par la DRAC, mais avec une volonté de travailler avec la région, les départements, à l'échelle des intercommunalités rurales, et les engageant, les encourageant à avoir un chargé de mission culture, un vrai projet, un projet sur plusieurs années. Et ça, je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui. Je vais à peu près dans le même sens, hein, c'est l'idée de pérenniser, mais de regarder aussi ce qui peut se faire et ce qui peut se faire aussi du côté des financements du développement rural ou du rural.
C'est ce qu'on appelait aussi dans certaines régions le plan local d'éducation artistique. Pour juste préciser sur le printemps de la ruralité lancé par le gouvernement, il devrait déboucher par des assises nationales pour justement évoquer cette question de la culture dans les territoires ruraux. Je n'ai pas trouvé la date. Ça devait être courant avril. Je ne sais pas si vous avez l'information. Mais voilà, les assises nationales de la culture en milieu rural à suivre prochainement. On prendra des nouvelles parce que ça reste quand même aussi intéressant de voir ce qui peut être mis en avant. Bonjour Marguerite.
Bonjour à vous. Bonjour à vous et puis merci. C'est très très intéressant de vous intéresser à la culture en milieu rural. Mais moi, je vais vous donner un exemple pratico-pratique. Voilà, samedi prochain, dans un village à côté du mien, Belle-Nave, il y a une troupe de bénévoles qui s'appelle Destination Théâtre, notre salle de la culture, notre salle des fêtes, parce que c'est une salle des fêtes est en réflexion.
Oui.
Elle va être absolument magnifique. Et dans le village d'à côté, à Chantelle, eh bien, la salle est prêtée pour que la troupe Destination Théâtre se produise samedi. Et puis, je voulais vous dire aussi que l'été, en juillet, là où il y a août, il y a une association, enfin je veux dire, ce sont des bénévoles qui font venir des troupes de théâtre. C'est le Festival des théâtres de Bourbon qui se produit dans des lieux d'exception. Et je vous assure que ce sont des pièces de qualité, Molière, Shakespeare, il y a aussi Peggy. C'est fabuleux. Le décor est extraordinaire dans ce manoir des Noix à Vos. Et là, bon, comme on n'avait pas eu la présence d'esprit de demander l'origine des spectateurs, eh bien, il y a deux ans, on n'a pas eu de subvention de la région. Bon, maintenant, on demande d'où viennent ouais. les spectateurs. Et ce sont, ce que je veux dire, c'est que... on ne peut pas opposer ce que pourrait proposer le ministère de la Culture et l'État aux associations de bénévoles parce que tout ne peut pas être fait par l'État.
Oui.
Dieu merci.
Ah ben écoutez, oui.
Voilà.
Vous êtes dans l'Allier, Marguerite, hein, c'est ça ?
Je suis à Belle-Nave.
Belle-Nave. Eh ben écoutez, merci beaucoup Marguerite pour votre appel au 04 72 38 20 23. C'est intéressant Jean-Michel Tobelem tout le témoignage, mais notamment à la fin quand elle dit il ne faut pas opposer non plus ce que peut faire le ministère de la Culture et ce que font déjà des associations et des habitants dans leur territoire pour faire vibrer cette culture.
Oui, mais encore une fois, c'est un des avantages
oui.
des milieux ruraux, c'est l'investissement des personnes. On a parlé effectivement à de nombreuses reprises des troupes amateurs, des ensembles amateurs, des compagnies. On pourrait citer les chorales, les fanfares aussi, qui parfois ont du mal à subsister, mais dans d'autres endroits restent extrêmement vivantes. Là, on a tout un ensemble de choses. Et effectivement, on se doute bien que sans l'initiative bénévole et associative, hein, donc c'est très important de soutenir les associations, un grand nombre de la vitalité culturelle de notre pays serait en danger. Et on sait bien qu'aujourd'hui, la subsistance des associations, en tout cas ceux qui sont peut-être pas les plus importantes, et restent parfois un petit peu précaires. Alors, Oui, bien sûr. Donc, je pense que dans notre pays, effectivement, il y a une assez grande richesse d'intervention des différents niveaux. Donc, on a cité l'État, bien entendu, mais il n'y a pas que l'État. Il y a toutes les structures territoriales jusqu'aux associations. Et chacun de ces maillons, comme il a été évoqué tout à l'heure, a un rôle important à jouer. Donc, je pense que le rôle des pouvoirs publics, c'est de détecter ces initiatives et de les accompagner et de faire en sorte que ces initiatives fleurissent du mieux qu'il est possible.
Alors, on a pu évoquer beaucoup de choses dans cette émission, notamment cet état des lieux qu'on a fait au tout début pour regarder un petit peu ce qui se passait en termes de culture et pourquoi on ressent ce manque. On a aussi parlé du rôle de l'État et puis des communes, des intercommunalités, des municipalités. Claire Delfos, peut-être pour ouvrir un peu, d'après vous, comment on pourrait vraiment encourager cette culture en milieu rural? Quelle méthode très simple on pourrait appliquer? Et peut-être que vous avez repéré des initiatives à mettre en avant ce matin.
Alors, la méthode très simple, effectivement, aujourd'hui, on part un peu dans des diagnostics culturels sur des territoires. C'est déjà partir du fait de recenser l'existant, essayer de voir justement au niveau associatif, au niveau acteur privé. Parce que tout à l'heure, c'est aussi une caractéristique rurale qu'on a pu voir, c'est-à-dire que si quelqu'un ressent un manque, parfois il va créer la structure pour diffuser. Moi, j'avais vu des personnes qui avaient créé un cabaret, par exemple, oui. ou un lieu de diffusion de jazz. Donc, déjà, commençons par recenser, mettre autour de la table, et c'est pour ça que c'est important de parler de projets culturels de territoire, mettre ensemble, communiquer, et je dirais pas oublier aussi des acteurs qui sont pas complètement étiquetés comme acteurs culturels, comme par exemple les centres sociaux, les MJC, qui sont aussi très présentes en milieu rural, qui peuvent porter des actions. Et des initiatives intéressantes aujourd'hui, eh bien, je dirais par exemple tout ce qui tourne autour des tiers-lieux que j'ai évoqué tout à l'heure, qui associe un peu diffusion culturelle, qui permettent aussi à des artistes qui habitent en milieu rural de travailler avec d'autres, dans ces initiatives, je trouve importantes qu'on peut trouver dans les territoires ruraux.
Et vous, Emmanuel Wallon?
J'allais justement parler des tiers-lieux comme des espaces d'alliance, parce que voit
catalyseur.
Que des gens qui sont investis dans la production, l'élevage, dans ma région, l'ostréiculture, dans d'autres, des cultures AOP, mais qui relèvent aussi parfois même d'une stratégie d'exportation à l'international. Ce sont des acteurs privilégiés pour ce développement culturel en milieu rural, mais ils ont aussi des alliés. D'ailleurs, Marguerite et ses amis peuvent en être. On trouve dans les départements d'art du spectacle ou de musicologie des universités, des jeunes gens qui ont envie d'un mode de production différent, d'un temps de création et de diffusion qui relève plus de l'infusion que de la diffusion, comme dirait mon ami Jean-Gabriel Carasso, avec des échanges qui prennent en considération le moment historique de conversion écologique dans lequel nous nous trouvons. C'est-à-dire que là encore, il y a des convergences dans la lecture d'un paysage avec son patrimoine monumental ou religieux, mais évidemment aussi avec son patrimoine humain et ses savoir-faire. Donc, tous ceux qui et celles qui ont envie de s'investir dans ce type de projet sont capables aussi de combiner des activités de nature différente, les unes allant vers le recyclage, les autres vers la création et d'autres encore vers la transmission. Ça, c'est vraiment un facteur d'espoir qu'il faut absolument souligner. Oui. Je voudrais rappeler que les festivals qui sont si nombreux, il y a une étude qui vient de sortir de nos collègues du CNRS de Montpellier, autour d'Emmanuel Négrier, Aurélien Jacquane, qui montre qu'un tiers des festivals ont lieu dans le monde rural mais ils ne durent pas forcément qu'un temps, qu'un feu de paille.
Voilà. Hein,
ils peuvent avoir aussi une permanence, notamment dans les rapports avec le monde scolaire ou avec les tiers-lieux que nous évoquions.
Jean-Michel Tebelem, en un mot, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, vous, qu'est-ce que vous avez repéré ? Pareil, et comme ça, on aura fini l'émission et on aura terminé le tour de table.
Au-delà du repérage, je dirais qu'encore une fois, s'appuyer sur les structures existantes. Je vous donne un seul exemple pour faire image, les pays d'arrêt d'histoire. Voilà, on a une structure de coopération, on peut agir, on mutualise des moyens. Et à cet égard, on peut à la fois développer des politiques patrimoniales au sens strict du terme, mais aussi des politiques touristiques et des politiques d'animation, des politiques de création autour du patrimoine.
Merci beaucoup Jean-Michel Tebelem d'avoir été avec nous. Merci à l'équipe de RCF à Tours qui vous accueille en studio. Je rappelle que vous êtes professeur associé à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, spécialiste des politiques culturelles et directeur d'Options Culture. Et puis, je rappelle ce rapport coécrit avec Jean-Michel Poutz. C'est un guide, le guide à l'intention des porteurs de projets, des élus culture et développement rural. Merci Claire Delfosse également à vous, géographe, professeur des universités à Lumière Lyon 2 et spécialiste des questions de culture en monde rural. Et merci Emmanuel Wallon pour votre participation, professeur de sociologie politique et membre du conseil d'administration de l'Observatoire des politiques culturelles. On remercie également RCF Pays de l'Ain, Bourg-en-Bresse. C'est déjà la fin de cette première partie d'émission. Dans un instant, on va quitter la campagne et direction la ville. On va essayer de redynamiser les villes avec vos témoignages. À tout de suite.